Je pense que c'est inutile de rappeler à quel point c'était une entreprise un peu risquée de traiter d'un tel sujet sans un élément du commun de connaissance de départ. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il était nécessaire que nous ayons une dernière séance de questions et réponses de mise au point. Il y aura en tout cas, si je me souviens bien, une partie du programme qui était annoncée qui n'a pas encore été traitée. Et c'est la question du livre. Je l'ai simplement indiqué en train de cours la dernière fois. Je vais donc. Je vais donc intégrer cette vie. Ça va? Ça doit être un principe au cabaret. Il faut attendre 2 minutes que tout le monde soit installé. Ça va bien, ça? La dernière question sur le tikkun concernant la destinée individuelle des méchants, la destinée individuelle des personnes qui, faudrait dire, qui réalisent plutôt qu'incarnent, étant donné la signification un peu trop étrangère de ce terme dans le vocabulaire de la tradition juive, disons qui réalisent au niveau de la réalité la destinée de chaque personne. Alors, j'intégrerai ce point dans l'ordre des questions qui me sont posées à vous. Alors, vous avez 2 minutes pour le préparer. Je me dis que toutes vos questions, j'essaierai d'organiser autour de 4 ou 5 points principaux, une récapitulation de ce que vous avez dit. Vous avez la parole. Oui. Donc, juste avant vos questions, je préférais que ce soit des questions plus d'analyse, d'éclaircissement de catégories, de principes, de concepts, plutôt que des questions de vérification de détails. On peut en tenir compte, mais ça risque de prendre trop de temps chaque fois. Vous avez
là. J'aimerais vous poser 2 questions. La première, vous avez développé que l'idée du mal, Yetzara, c'était quelque chose de nécessaire, mais provisoire. Nécessaire pour permettre à l'homme de mériter de réceptionner l'être. Et tant que la réception n'est pas complète, la donation non plus ne l'est pas. La question est, dans la mesure où le mérite est lié au phénomène même du Yetzer Hara, car s'il n'y a pas de Yetzer Hara, il n'y a pas de mérite qui intervient, et ne commence pas ici dans un cercle vicieux. Parce que finalement, s'il ne crée pas l'être avec le Yetzer Hara, la notion de mérite n'interviendrait pas. Donc pourquoi créer un être avec un Yetzer qui nécessite ensuite le mérite. Donc, où y a-t-il ici nécessité du Yetzer? Ce qui n'est pas ici, c'est vicieux.
Oui, bon, je vais essayer de répondre. Pas tout de suite, je vais entendre une question. Je vous disais là, vous aviez la réponse dans la manière même que vous avez posé la question. Mais ça ne me permettra de revenir sur les analyses possibles. La deuxième question.
La volonté de créer un être autre que soi, c'était dans notre analyse le chesed absolu. Dans la mesure où créer un être autre que soi porte en soi-même la nécessité de donner l'existence à cet être, qu'il puisse continuer d'être, où y a-t-il ici notion de mérite de la part de l'être qui reçoit? L'être qui reçoit ne peut-il pas dire à l'être qui lui a donné cet être, personne ne t'a demandé de me le donner. Dans la mesure où tu me l'as donné, tu es obligé de le laisser exister.
Je suis déjà prêt à la réponse. La réponse est faite dans les termes de la question. Mais je vous rappelle très très brièvement que vous avez une Mishnah qui a déjà répondu à tout cela. C'est-à-dire que le problème est déjà fini. Mais je pense d'ailleurs que finalement c'est la même question. Alors, on est à près de là. Bien, ensuite. C'est bien que ça. Bon, dès qu'on commence par ces problèmes-là, tout le monde.
Oui.
Ok. Le
problème, c'est qu'on est bien que la notion de nécessité qui a été évoquée plusieurs fois dans les derniers cours, il semble. bien des problèmes trouvent leur réponse dans l'affirmation qu'il était indispensable, nécessaire, que les choses se passent de cette manière. Et une question d'ordre théologique, c'est-à-dire, n'y aurait-il pas ici une limitation de ce qu'on sait être le dogme de la subsistance du Créateur, sa non-limitation. Je fais une question par rapport au problème du mal. C'est-à-dire, dans les articles, il a été dit que si on admet que le mal vient du monde à la manière d'Aristote, alors il y aurait ici l'argument, bien que évacuant la culpabilité de Dieu, on trouverait dans une autre question. Comment se dit-il que Dieu a permis un monde où ce mal est possible?
L'objection est pour Aristote ou contre Aristote?
La question reste de cette manière. Comment
est-ce que Dieu laisse cette question? Non, mais si nous nous situons dans la perspective d'Aristote, il n'y a plus de question. Il n'y a plus de cavalerie, il n'y a plus de récit, il n'y a plus de.
Non,
tout ce que je veux rappeler, c'est que je dis à ce moment-là que la position d'Aristote est une position irrémédiablement pessimiste. Parce que nous avons Dieu absolu, éternel, et si la force que Aristote appelle Dieu, organisateur, diénuge, n'a pas déjà une fois réussi à évacuer les causes du mal qui viendraient de la matière coéternelle, il n'y a aucune raison de sa décision. C'est clair. Par conséquent, il ne faut pas argumenter dans le registre de il faut considérer l'option d'Aristote pour elle-même, et dans son registre à lui, le problème de ce qu'il est, puisque Dieu n'est pas responsable du mal, le mal vient de la matière soit éternelle à lui, mais la conséquence, l'implication, est que nous sommes dans une philosophie pessimiste ou irrémédiable. Donc, ta question rejoint la première, ça tourne autour de la notion de nécessité. Tu sais.
Même si on admet que le mal est nécessaire dans une optique de la volonté de donner le bien dans Dieu, alors, pourquoi je pose la question, comment est-ce possible que Dieu permette, ou bien comment est-ce possible que son monde de telle manière qu'il soit destiné à être passé par le mal pour arriver à donner le bien
dans Dieu? Ça revient toujours à la même question, je vais essayer d'être très tôt. Alors, si vous permettez, on va commencer par ce groupe de questions qui se. Finalement, sans doute, je la même notion. Oui, madame.
Ma question, c'est suivant un éclaircissement que vous voulez avoir de son amour. C'est au niveau de la nouvelle création. Cette nouvelle création qui n'existait pas en lui, finalement. C'est-à-dire à Briara Hadasha, sur où elle attend de la volonté de recevoir, n'existait pas en lui, sinon, ce qu'il va dire recevoir. Maintenant.
C'est ça la question.
La question, oui, parce qu'on dit que c'est quand l'arrêt n'est là qui vaut Dieu. C'est-à-dire que tout est en lui. Alors, quand même.
C'est pas ça que ça veut dire que l'arrêt n'est là.
Non,
c'est
tout le contraire. C'est
l'arrêt. Bon, d'accord, je vais en tenir compte. Si jamais je l'ai oublié, tu me rappelles. Écoutez, je vais prendre une des formules des questions qui ont été posées pour l'analyser. Et je pense que tout de suite, il faut rappeler qu'une parmi les grandes difficultés que nous avons dans cette étude, étant donné les données de l'étude, c'est que nous parlons en français pour faire allusion à des catégories hébraïques, et pas seulement d'un hébreu pachout, de l'hébreu de l'Ulpan, si j'ose dire, mais de l'hébreu du Lachonadoche. Et au fond, tout l'effort, c'est d'arriver quand même à trouver un minimum de termes de catégories propres à la langue française que nous étudions, et avec le minimum de consensus de signification, quelles que soient les écoles philosophiques à travers lesquelles nous avons appris le français. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Parce qu'en français même, les mots sont des implications de sens différents suivant les écoles philosophiques. Alors je crois que finalement toutes ces questions ont tourné autour de cette catégorie de la nécessité, donc on va le reformuler d'une autre manière pour compléter un peu cette perplexité, si j'ose dire. Et je reprendrai pour commencer une des formules de Uri, que le mal était nécessaire pour pouvoir ensuite donner le bien. Il ne me semble pas avoir formulé quant à moi de cette manière-là, mais je reprendrai le décodage. Et via deux deux formulations possibles. Soit de dire que le mal a été créé pour que le bien, en contraste, puisse avoir sa valeur de bien, et ceci est complètement repoussé par la tradition juive en général, pas seulement kabbaliste. Et soit, et c'est pas celle que j'ai employée, par exemple, au niveau du problème des issourim, au niveau du problème des souffrances, il y a une hypothèse possible qui consisterait à dire il y a un il y a un surplus, il y a un intérêt, un avantage à souffrir, puisque c'est à travers cette souffrance qu'on acquérera un mérite supplémentaire. Tout ceci est systématiquement refusé. En particulier, il y a une sorte de soupira dans la Maseret Brachot, où on voit des parmi les Chachamim, les Tzadikim, être dans de grandes souffrances, leurs collègues. Collègues, ça veut dire ceux qui sont au même niveau de mérite spirituel et de stature de sagesse. Et encore la formule suivante, Habibim Alecha Isurim, est-ce que ces souffrances, ces épreuves te sont chères, sous-entendu parce que cela implique l'intérêt d'un avantage, d'une récompense après la souffrance. Et je crois que c'est la réponse que la Talmud donne, en particulier Rabbi Yochanan, c'est spécifique à la tradition juive. La réponse est « Lo'el v'lo'scharam », ni elle, ni leur salaire. C'est-à-dire qu'il y a deux voies possibles. Mais celle que Dieu préfère, c'est le tikkun dans l'ordre du bonheur. S'il arrive qu'il y ait des raisons qui font que des issourim adviennent, que ce soit, la principale explication des issourim étant de les considérer comme étant le châtiment d'une faute, alors s'il arrive, pour quelque raison que ce soit, que des issourim adviennent, la fierté consiste à les assumer et à les transfigurer dans l'ordre du bien, mais toujours a posteriori, jamais a priori. Je crois que la chose va être bien claire. C'est-à-dire, là où nous sommes effectivement devant un problème qui se pose dans des données difficiles, mais dont la solution est très simple. Il faut que nous arrivions à élucider cette notion de nécessité pour que lorsque le Créateur existe. Et la finalité de la médiation du mal dans l'ordre de cette nécessité. Mais ce n'est pas le mal qui a été voulu pour que le bien soit le bien. Est-ce que c'est bien clair? Peut-être vous donnerai un exemple qui se rattache à ce problème. On pourrait croire, par exemple, que si on a acquis tel mérite par tel ou tel mitzvah, mais que d'autre part, on a acquis un démérite par tel ou tel avéra, par tel ou tel transgression, que ça se compense, ça s'annule, pas du tout. L'ordre de mérite a ses propres conséquences, et l'ordre de avéra, et l'ordre de transgression a ses propres conséquences. C'est-à-dire que l'un ne peut pas contrepoir à l'autre. Est-ce que c'est bien clair? C'est la raison pour laquelle on peut dire que l'image de la balance pour le jugement est très, je crois que j'avais signalé d'ailleurs à une des amies, est très insérée, enracinée dans cette vision du problème. L'identité de la personne créée est mise en jeu dans une histoire, et finalement on perd sa valeur. On ne fait pas un compte, mathématique, arithmétique. Il n'y a pas du tout une vision de comptabilité des mérites et des démérites. Il y a une vision de évaluation, jugement de la qualité d'une personne qui avait été créée. Est-ce qu'elle a déjà acquis son être ou pas? Oui. Et je reprends donc cette formule. Au sujet de la finalité du mal. C'est-à-dire, l'objectif, c'est que le tikkun se fasse dans l'ordre du bonheur. Et par conséquent, nous avons en premier lieu à élucider la nécessité de ce tikkun. Je pense qu'à travers la même analyse, vous aurez l'écho de réponse à chacune des parties de vos questions. Si ce tikkun se fait mal, s'il y a dans ce métier qui consiste en tant que créature, à acquérir le mérite d'être vraiment, et le mérite d'être vraiment, je veux dire, c'est pas l'être de son esprit. Je crois que là, il y a une analyse très rare à avoir clairement à l'esprit. La conscience hébraïque, et c'est en cela, je pense, qu'on peut dire qu'elle a été jugée digne d'être le véhicule de la prophétie, d'être l'interlocuteur du dialogue lorsque Dieu a parlé, a le sentiment au bout d'une insatisfaction Quant à la formule suivante, ce monde tel qu'il est, ce sera le démontré de la création que Dieu a voulu faire. Je récapitule cette définition. Il y a le sentiment profond d'une insatisfaction de l'état du monde. Et par contre, je l'éclairerai peut-être par une analyse que j'ai souvent donnée comme illustration. Lorsque Abraham commence son histoire, il se heurte à un des personnages de la Torah, qui n'occupe que quelques versets d'ailleurs, et qui est Nimrod. Nimrod, que le Midrash définit comme étant, c'est son nom qui l'indique, l'homme révolté, et que le Midrash définit comme étant, en se basant d'ailleurs sur le verset, le chiffre dans le verset d'Abel, le principe de ce que nous appelons les empires. Les quatre empires à travers lesquels les exils d'Israël se passent lorsque l'exil est nécessaire. On pourrait d'ailleurs prendre l'exemple de l'exil, quand il souligne, pour illustrer aussi cette même analyse. A priori, Israël est donné, s'il est vraiment Israël, à une histoire de relation avec l'universel humain tout entier, et ça se concrétise dans la relation avec la civilisation dominante de chaque temps. A priori, l'exil n'est pas du tout prévu dans la prophétie de Dieu à Abraham, le verset fondamental que vous connaissez, Yadoah, Teda, Yir, Yir, Zaha, Bereslaël, n'est pas du tout perçu comme exil punition. S'il arrive que, dans ce métier qui consiste à mériter l'être vraiment, et l'être vraiment, c'est pas celui de ce monde-ci, encore une fois, alors, s'il y a des fautes de métier dans ce métier d'homme, il faut corriger ces fautes de métier. Donc, c'est un niveau du mal qui ne vient que a posteriori de l'histoire. Le fait que dès que l'histoire commence, on s'aperçoit qu'il faut effectivement choisir entre ces deux voies, soit la voie du dirige positif, la voie royale, soit à travers l'Israël, et c'est pas pour rien que la Torah nous raconte comme le fait, le premier fait historique, ce que l'on appelle la faute du premier homme, dès que la vie commence. Alors, l'éventualité de la médiation de cette acquisition de l'être par le tikkun à travers les souris, à travers le mal dans le sens de malheur, et vous étonnez tout de suite. Il y a un des commentateurs qui l'a indiqué de façon très concise, le mot de Haïm, la vie, commence par la lettre het, et vous savez que ça veut dire het. Il y a cette histoire. Mais il y a une deuxième formulation concernant la nécessité du mal. Et pour cela, il faut d'abord, sur le premier point, je pense, enlever tout le pathos qu'il y a, toute la charge affective qui s'est accumulée autour de la notion de Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est d'abord, je vais choisir le vocabulaire du Rav Ashlag, puisqu'une question qui m'a été posée est à ce niveau-là. Le Yetzer Hara, c'est d'abord le, comme le dit le Rav Ashlag, le Ratzon de Kabel, c'est-à-dire la volonté de recevoir avant d'avoir mérite. On apprendra par la suite, si nous avons le temps de faire l'analyse, que le levier du mérite, c'est de transformer la volonté de recevoir en volonté de donner. Et en tant que Yetzer, le Yetzer rare, en tant que Yetzer, le Yetzer n'est pas rare. Est-ce que c'est clair? Mais ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est cela. Montrer la différence des deux expressions possibles, Yetzer Ra et le Yetzer Ara. C'est-à-dire le vouloir qui me fait vouloir le mal, ce vouloir n'est pas mauvais. Parce que c'est le vouloir être. J'ai un peu lentement que vous avez fait. Et une petite analyse au niveau de la moralité, puisque le fil conducteur que j'ai pris dans ces analyses, je vous l'ai indiqué dans le programme, c'est la primauté du moral sur le métaphysique. Mais on reviendra peut-être sur cette question tout à l'heure. C'est-à-dire, si on fait l'analyse de toute sorte, une analyse dans l'existence, maintenant que le monde est ce qu'il est, il y a des fautes. Ensuite, on remontera par induction pour comprendre pourquoi il était nécessaire qu'il y ait cette éventualité-là. Et qu'est-ce que ça signifie lorsque nous disons en français philosophique nécessaire, pour parler de la volonté de Dieu, s'il n'y a pas là des migbarot, s'il n'y a pas là des limites, s'il n'y a pas là une idée blasphématoire que la toute-puissance de Dieu puisse être contrariée par une fatalité qui viendrait d'ailleurs. C'est au fond le sens de vos questions. Eh bien, le vouloir être mène inévitablement au risque de la foi. Et c'est pourquoi telle sorte m'expliquer un peu plus, et c'est pourquoi tout de suite la liturgie de l'expiation propre à la Torah prévoit une distinction radicalement différente entre les formes volontaires qui impliquent un programme, un défaut qui entraîne, qui implique et qui dévoile un défaut dans la personne elle-même. Et d'autre part, c'est l'effort qu'on appelle le mésis. Et d'autre part, l'effort involontaire, qu'on n'a pas voulu expressément, mais qu'on a fait quand même, et qui, elles, sont évaluées et jugées au niveau des actes, le programme, le, comment dire, la tâche que cela indique au niveau des personnes, de la personne, de la volonté de la personne, de ce qui est libre dans la neshama, le raton, étant infinitésimale. Mais elle existe quand même, ce qui est bien qu'infinitésimale, donc il faut une compensation d'expiation, mais c'est un tout autre niveau que l'effort volontaire. Sinon, on fait l'analyse de toutes sortes de choses, premièrement. On s'aperçoit que on a été nommé à la conduite de la faute. Et encore une fois, retenez la distinction entre la faute volontaire, c'est beaucoup plus grave, bien sûr, et la faute dite involontaire. Il y a, je crois, 17 catégories de fautes différentes, 18, et les schématises en deux groupes. Ça peut être involontaire pour énormément de raisons différentes. Et dans la faute volontaire aussi, il y a des niveaux de révolte. Bien. Alors on s'aperçoit que c'est parce qu'il est nécessaire de recevoir une jouissance du monde extérieur pour pouvoir nourrir sa présence à l'être de ce monde-ci que l'on est conduit à telle ou telle faute. Il faut donc déculpabiliser ce pathétique, si j'ose dire, qui s'attache autour de la notion de faute ou de yéterara à l'origine. C'est-à-dire, pour le dire en termes hébraïques, étant donné que ma présence à ce monde-ci n'est possible que si elle est nourrie de hanar de ce monde-ci, de jouissance de ce monde-ci, et c'est le problème économique dans le sens le plus général du terme. Le problème économique, c'est pas seulement finalement la nourriture concrète de la nutrition telle que nous la connaissons, les aliments, subventionnés ou pas, enfin les aliments directement, c'est toutes les jouissances que l'être de la personne humaine doit recevoir du monde extérieur de personne de pouvoir être présent à lui-même. J'emploie un autre vocabulaire. À travers tous nos sens, à travers tout notre être, nous sommes comme un centre de distillation du paysage extérieur qui se distille à travers nous et qui constitue notre personne. Le ma du monde extérieur, le ça du monde extérieur, ce terme de ça n'a pas le sens dans cette phrase qu'il a chez les psychanalystes, mais enfin, disons, la chose du monde extérieur, l'impersonnel du monde extérieur, à travers l'homme comme centre d'indifférenciation, mais pour viser la constitution du mi, du quelqu'un, de la personne, le fourni, c'est un autre qui font que la conscience est présente à elle-même. Si cet aliment cesse, il y a cinq ordres de la présence dans ce monde. Et par conséquent, parce que nous sommes donnés à ce problème de devoir manger pour vivre, et mettre dans manger à travers tous les sens, toutes les jouissances, vous rappelez d'ailleurs quand, dans le texte de la faute du premier ordre, la Torah nous dit que Chaba, elle, avait vu que ce fruit était bon à manger, bon à boire, précieux à comprendre. Et dans les trois niveaux, voilà, ne fait trois, mais jamais. Et puisque nous sommes donnés à ce problème, alors il y a effectivement le risque à ces deux niveaux, soit d'emblée, je reçois dans l'ordre de la vérité neutre. Au contraire, c'est grâce à lui que la volonté du Créateur se réalise. Et ce yéter en lui-même n'est pas mauvais, c'est le vouloir être. Ou bien, j'ai reçu sans la perspective du mérite, et alors, il y a une faute. Je voudrais donner une formule. Le fait que le problème moral et le problème économique soient tellement liés se rattachent à notre problème. C'est-à-dire, nous sommes donnés à la situation de relation économique de telle sorte que l'épreuve morale se fasse. Parce que qu'est-ce que c'est finalement la relation économique? C'est la relation d'autrui à autrui dans toutes les situations de l'existence. Et c'est à propos de la relation à autrui dans toutes les situations d'existence que se pose le problème moral. Et nous apprenons un texte très important au moment de la sortie d'Égypte, une des premières mesures concernant les lois de Pessah, c'est que chaque personne de cette histoire qui commence à la sortie d'Égypte est définie par sa capacité nutritive. On se groupait pour fêter le Pessah de la sortie d'Égypte autour de l'agneau pascal du sacrifice, d'après l'expression de la Bible, Ish, les filles, Oslo, Tafosou, Alassé. Chacun avec sa capacité nutritive, je ne sais pas comment dire, Ish, les filles, Oslo, dans la même époque. Chacun avec sa capacité éducatoire, vous pouvez nous traduire, Tafosou, Alassé, vous recouvrirez la capacité de nourriture que représente un agneau. C'est-à-dire qu'une communauté d'Israël se définit dans les. Et du point de vue de l'histoire que raconte la Torah, au niveau économique, ça veut dire que le problème moral est posé à propos du problème des Hanaot, des Juifs. Et donc, ça nous éclaire un point extrêmement important, il faut inverser les données du problème. Si nous sommes donnés au problème économique, c'est parce que nous devions être donnés au problème moral. C'est-à-dire que le problème économique est le véhicule du problème moral. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Parce qu'on se retrouve aussi aux questions de cette manière. Comment se fait-il que Dieu a créé une créature imparfaite, et imparfaite dans quel sens qu'il doit manger pour vivre. Si on comprend le contraste qu'il y a entre la valeur que représente la présence d'une conscience et ses valeurs de bien intérieur, et d'autre part, la dignité de la nourriture qui fait qu'elle existe, il y a là un scandale philosophique. Je veux dire, dans une perspective purement philosophique, c'est un mystère, c'est incompréhensible, à ma connaissance, aucune philosophie n'a donné de réponse à cela. Comment s'expliquer que la conscience humaine, qui est la valeur de toutes les valeurs, puisque c'est à travers la conscience humaine que toute valeur se fait valeur, en tout cas au niveau de notre monde, dépend du morceau de pain qui fait qu'il y a cinq corps pour le monde présent de soi à soi, conscience. Et donc, déjà un élément de réponse important. Et le fait que nous soyons donnés dans notre existence de ce monde-ci au problème économique a lui-même une finalité. C'est parce que le problème économique est le véhicule du problème moral. Et par conséquent, ça c'est pour la première remarque, et que je crois qu'on peut clore ici, il faut bien distinguer entre ces deux formules. Le yetzer du yetzer hara en lui-même n'est pas mauvais. C'est le pouvoir être auquel nous sommes donnés. Voici, sur ce point précis, comment le Rabbi Shlag a posé ce problème. Ensuite, je reviendrai au problème de la nécessité pour créer l'autre que le Créateur, qu'il en soit, comme il en est, Halal, Tizoum, Shirat Akilim, Yeter Halal. Il nous dit ceci, nous sommes, semble-t-il, donnés à une condition, la condition humaine, qui n'a pas d'issue. En philosophie, en registre philosophique, on dirait, nous sommes donnés à une destinée tragique. Qu'est-ce que c'est ? Et c'est un terme qui n'existe pas dans la sensibilité juive, dans la sensibilité traditionnelle, à plus forte raison dans la Kabbalah. Qu'est-ce que c'est que le sentiment du tragique ? C'est un drame qui n'a pas de solution. Est-ce que c'est suffisamment clair ? Une différence entre le dramatique et le tragique. La conscience hébraïque a évacué complètement toute notion de tragique. Je me réfère ici en particulier à une analyse que M. Nair avait écrite juste après la guerre mondiale. Je pense que c'était un de ses premiers textes. Il avait donné une introduction au livre de Ruth. Il avait fait la remarque suivante, qui m'a beaucoup servi par la suite par rapport à ce problème. Si on compare la littérature biblique avec ce que, par exemple, la société grecque a laissé comme fond littéraire à l'humanité, on s'aperçoit d'une différence radicale. Et finalement, la conscience grecque, le génie grec, je dirais, a hésité entre différentes hypothèses, dont l'hypothèse hébraïque qu'elle a rejetée, mais les premiers des anciens grecs sont aussi des hébreux possibles, mais finalement, le génie grec a choisi la conscience tragique. Et toutes les histoires qui sont racontées à travers le drame tel que le présente, le drame humain tel que le présente la conscience grecque, sont des tragédies en fin de compte, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Et dans la littérature française, c'est la différence entre l'œuvre de Racine et l'œuvre de Corneille. Corneille est dramatique, alors que Racine est tragique. Et chez Corneille, vous avez toujours un deus ex machina qui intervient à la fin de la pièce et qui arrange tout. C'est très juif. Et tandis que chez Racine, eh bien non, on apprend une scène sans issue, et puis ça va recommencer entre-temps, je me retire dans mes appartements. C'est-à-dire, on rentre dans les coulisses, frappé comme Racine. On rentre dans les coulisses, mais ça va recommencer, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de solution. Et donc, le Rachat nous dit, le drame humain est donné à une problématique apparemment sans issue, donc apparemment tragique. Donc, dans la Brahmane, on traduit souvent les descriptions de la destinée humaine de façon, je serais tenté de dire, mais c'est tragique, mais il faut les masquer. Et nous avons énormément d'exemples. Et chaque fois, si vous voulez, que dans la tradition rabbinique, il y a d'abord l'effort de lucidité pour indiquer les véritables données du problème sur lequel nous réfléchissons. Tel point du problème de la destinée humaine. En particulier, l'Ecclésiaste. Eh bien, il faut savoir que le premier moment de l'analyse est beaucoup plus impitoyablement tragique qu'aucun philosophe n'ose voir dans le cauchemar. Et ensuite, l'explication vient. Mais c'est jamais laissé par le point d'interrogation du tragique, si j'ose dire. Très brièvement pour l'Ecclésiaste, et je reviens à Rachelag. Vous rappelez du verset clé du dialogue de l'Ecclésiaste avec le sceptique. Vanité des vanités, et tout n'est que vanité. Vous rappelez de cela. Et alors, on impute à l'Ecclésiaste lui-même, à Corélec, le roi Salomon, pour la tradition, on impute ce pessimisme de vanité des vanités, tout n'est que vanité. Alors que, en fin de compte, en réalité, c'est tout l'opposé. Le roi Salomon va d'abord dire ses titres, il était roi à Jérusalem et il avait la puissance, la sagesse, toutes les jouissances possibles. Il peut donc dire tout est vanité. Il peut le dire vraiment, beaucoup plus que n'importe qui le dirait en hypothèse philosophique. C'est-à-dire, il peut dire, et il y a 7 exposés dans le livre de l'Ecclésiaste, il peut dire qu'il a essayé de donner un sens à la destinée humaine si elle se refermait sur ce monde, c'est qu'il n'y en a pas. Si on se refermait sur ce monde-ci. Et si la destinée humaine se refermait sur ce monde-ci, toute est vanité, même la sagesse. Vous comprenez l'importance de la lucidité tragique de la position du problème. Et ensuite, la réponse est très simple, c'est qu'en fait, tout ne se referme pas sur ce monde-ci, et donc, a posteriori, tout reprend un sens en vue du huitième jour des sept premiers. J'explique ce que je viens de dire très rapidement. Le Midrash, le Sidrash. D'ailleurs, met en évidence que l'Ecclésiaste parle de 7 vanités, on va les compter ensemble, vanité des vanités ça fait 3, 1 et 2 ça fait 3, il répète vanité des vanités ça fait 6, tout n'est que vanité ça fait 7. Et le Midrash dit ça correspond aux 7 jours du commencement. Les 7 jours du commencement sont complètement vains s'il n'y a pas un 8e. C'est-à-dire, celui qui pense que cela se referme dans les dimensions de ce monde-ci, alors pourra essayer de dire tout est vanité, sauf, par exemple, le fait d'être philosophe, mais ça, l'Ecclésiaste peut dire même le fait d'être philosophe. Vous avez compris le problème. C'est-à-dire, imaginons que nous soyons au troisième jour. Alors, le deuxième jour a pris un sens. Le premier jour a pris un sens. Le premier jour a mené au deuxième jour. Le deuxième jour a mené au troisième. Mais si nous sommes au troisième jour, nous sommes pris de perplexité. Il faut une notion de savoir qu'il y aura un quatrième. Pour celui qui a l'option de savoir qu'il y aura un quatrième, alors le troisième jour est en train de prendre un sens. C'est bien clair. Pour celui qui est devant l'extrême pointe de l'évolution qui a mené là où nous sommes. Et puis, n'avoir pas un huitième jour pointe, alors les 7 premiers, les 7 premiers vont pouvoir venir tout de même. Bien, alors je reviens à l'exposé du Ravage. Quelle est cette situation humaine contradictoire et apparemment tragique? C'est le fait que pour exister, il faut exister dans l'ordre du Yétera, c'est-à-dire recevoir. Mais, très peu, la conscience humaine perçoit que cela n'est pas, cela n'est pas suffisant. Le seul fait d'être constitué que de Yétera, le seul fait que je puisse avoir conscience d'une gêne, me connaissant avec un Yétera et un Yéterato, le seul fait que je puisse avoir conscience du gène montre que je ne peux pas me satisfaire de mon identité en tant que Yetzirah. Le Ravachlag l'explique ainsi, il y a deux manières d'être. L'être créateur, dont tout l'être consiste à donner l'être, Et notre créature, notre être consiste à recevoir l'être. Pour que notre créature soit, il faut qu'il soit constitué d'un yetzera, recevoir l'être. Et nous avons vu que c'est un échec du yetzera qui fait que là, ça veut dire mal. Est-ce que c'est clair? C'est l'échec du yetzera qui fait que le rat est mal. Étymologiquement, il faut, dans la manière du moins, par niveau de la langue, il faut comprendre que le yetzera c'est ce qui me donne envie d'avoir envie. Si je n'ai pas envie d'avoir envie, mon âme me désire quelque chose, c'est de l'envie. Il faut l'attacher en bas avec le yetzera. Un exemple du mirage qui nous dit que, à certaines conditions, si un tzaddik n'a plus de yetzera, alors on considère que nous ne faisons plus partie du monde des vivants. Vous vous rappelez de cela? Un autre? Dans l'enseignement de Kodé Yitzhak. C'est-à-dire, s'il n'a plus de yetzera, alors ça veut dire qu'il n'est plus soumis au mitzvot. Il fait plus partie du monde des vivants. C'est comme s'il était mort à la nuit. Mort de la nuit de son âge. Bien, par exemple, je vais vous citer un autre exemple à ce sujet. La Gemara nous raconte que, à la suite d'une remarque que j'ai éclaircie, on n'a plus aucun mot de la prophétie qui avait aussi l'idolâtrie. Et on ne peut pas remarquer cela, que dès que la prophétie cesse, l'idolâtrie aussi cesse en Israël. Du passé du temps des prophètes au temps de la Mishnah, pendant tout le temps des prophètes, au temps des Hébreux, il y avait révélation, alors il y avait aussi l'idolâtrie. Et là, j'aurais dû répondre à la question. Puisqu'il y a dévoilement, alors il y a aussi risque de se tromper. S'il n'y a plus de dévoilement, il n'y a plus de risque de se tromper. C'est la raison pour laquelle les modernes ne comprennent pas ce que c'est que l'idolâtrie. C'est-à-dire, mais ça va soi, non plus, qu'en faveur, c'est de la prophétie. Donc, dans longtemps, il y a dévoilement, il peut y avoir l'idolâtrie. Je crois que nous avons un peu parlé de ça, la question de l'idolâtrie, la semaine dernière. Et alors, on raconte que Ezra a pris acte de cela, que le yetzer hara de l'idolâtrie avait disparu, avait cessé. Alors, c'est pas comme ça que ça commence. C'est Ezra, dit la Gemara, qui a prié pour que le yetzer hara de l'idolâtrie cesse. La conséquence a été la fin de la prophétie. Alors, Ezra a vu, c'est Ezratzon, Sha'af Rahamim, Dieu écoute, exauce la prière, on va en profiter, on va demander que les deux autres yetzer hara disparaissent aussi. Le yetzer hara de Gilgal Arayot et le yetzer hara de Shefirat Damim. La Gemara explique que Dieu a fait cesser le yetzer hara de Gilgal Arayot. Il était comparé à un lion, maintenant c'est toujours un lion, mais un lion aveugle. Et comment l'explique la Gemara en disant, d'abord, Dieu avait probablement enlevé le yetzer hara de Gilgal Arayot. Alors, la Gemara dit qu'on ne trouvait plus à manger. Il n'y avait plus un œuf sur le marché. Que je sais, le yetzer hara est la condition de la vie. Ce yetzer hara qui est la condition de la vie, encore une fois, en lui-même n'est pas large. Il est le pouvoir-être. Et voilà notre condition de créature. Si nous cessons de recevoir l'être, nous cessons d'exister. Première donnée. Petite parenthèse, il y a une échappée mystique qui montre bien à quel point la Kabbalah a bien diagnostiqué le danger de la mystique lorsque elle est purement abstraite, si j'ose dire. Et lorsque vous rencontrez une mystique qui prétend ne pas recevoir et se borner à donner, et que c'est cela l'idéal, qui met l'art pour l'art en morale, l'art pour l'art en religion, alors inévitablement, on tombe sur un fondateur de secte qui se prend pour Dieu lui-même. J'ai compris ce que je dis. C'est-à-dire quelqu'un qui se définit comme ne recevant pas, mais donnant. Donc, je reviens à la condition de créature, première donnée, le yetzer hara. Et puis, l'évolution même de la conscience au niveau des âges. Un âge apparaît où la conscience ressent que ce n'est pas moral de recevoir si on n'en a pas mérité. Que ce qui est moral, c'est de se faire à l'imitation du créateur dont tout l'être consiste à donner. Que le mal, c'est recevoir, et que le bien, c'est donner. Voilà, nous avons là, ici, un blocage de ces deux données. On est soumis à une contradiction. Si je ne reçois pas, je n'existe pas, mais je suis dans le mal de la conscience parce que je sais que c'est donner qui est le véritable être. Et comment résoudre ce problème? Alors, il n'y a que quatre
Thank you.